tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Madame Judith Doré dans ce studio. Bonjour Judith.
Bonjour Marie-Christine.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de deux petites paraboles qui se trouvent dans l'Évangile de Marc.
Oui, tout à fait. Et la première, d'ailleurs, ne se trouve que dans l'Évangile de Marc. Mais avant de lire, je vous invite à la prière. Seigneur, permets-nous de déposer quelques minutes nos soucis, nos tracas, nos fardeaux, et de faire silence pour être à l'écoute de ta parole. Viens ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour que chacun de nous aujourd'hui puisse entendre une parole de toi, une parole qui guérit, qui nous remet debout, une parole d'espérance. Amen.
Et nous allons maintenant écouter dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. Il disait encore, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il disait encore, « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu? Par quelle parabole la représenterons-nous? C'est comme une graine de moutarde, qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. »
Merci. Alors, on appelle souvent ce chapitre 4 de Marc le chapitre des paraboles.
Mais en fait, qu'est-ce qu'une parabole?
Les paraboles, nous les connaissons bien. Le semeur, les ivraies, le grain de moutarde, ou encore la maison bâtie sur le roc. Si bien qu'on finit par penser, comme les disciples, qu'elles ne sont pas vraiment pour nous. Nous, on comprend, on sait. Et pourtant, quand Jésus parle en parabole, il ne s'adresse à personne d'autre qu'à nous, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme il dit. Quand Jésus parle en parabole, il ne raconte pas des histoires, il raconte notre histoire, celle que Dieu veut vivre avec nous aujourd'hui. Et la parabole n'impose rien, elle raconte. Elle n'est ni un discours édifiant, ni un propos dogmatique, et encore moins un discours moralisateur. Elle déroute, elle surprend, elle intrigue. Raconter, c'est ouvrir un espace que l'auditeur va pouvoir habiter avec sa sensibilité propre, avec ses émotions et son imaginaire. L'intrigue avec ses personnages aux réactions inattendues, avec ses revirements et ses rebondissements, nous permet de nous approprier le récit. La parabole n'enseigne pas, elle ne catéchise pas, parce qu'elle rompt avec tout le discours doctrinaire et tout mode d'imposition de valeur. En fait, elle communique autrement.
Jésus a beaucoup parlé en parabole, mais je crois qu'il y a aussi des paraboles dans l'Ancien Testament.
Oui, il y a par exemple la parabole des arbres qui se donne un roi dans le livre des Juges, ou la parabole du riche et de la brebis du pauvre dans le deuxième livre de Samuel. Ça, c'est l'histoire que le prophète Nathan raconte à David.
Thank you.
Mais revenons à ce chapitre 4 de Marc. Nous avons deux auditoires qui sont mis en scène, les foules et puis les disciples qui sont plus proches de Jésus. Aux foules, Jésus parle en parabole et aux disciples plus proches, il donne des explications. C'est ce qui explique ce que nous trouvons dans les versets 33 et 34.
C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples.
Alors je pense que ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Jésus parlait aux foules en paraboles du royaume de Dieu. Et cette mode de communication en images permettait à tous d'entendre l'enseignement, et puis ensuite ceux qui étaient intéressés et qui s'approchaient de Jésus recevaient un enseignement complémentaire, où Jésus expliquait autrement ce qu'il voulait dire. Ce qui est délicat parfois, c'est d'écouter et d'entendre ce que le texte nous dit, et éviter de le faire parler pour conforter nos idées préconçues. On peut dire vraiment que l'interprétation des Écritures a souvent posé et pose encore problème. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et donc tout renvoie à la responsabilité de chacun. Les paraboles ne sont compréhensibles que si on se met à l'écoute de Jésus, qui seul peut donner le sens. Et se mettre à l'écoute chez Marc signifie se laisser déplacer et s'approcher de Jésus. Et je peux dire que cette parabole, la première petite parabole que nous avons entendue tout à l'heure, m'interpelle au plus profond de moi-même et au cœur de mon ministère, de mon service dans l'Église. Contrairement à la parabole du semeur qui la précède et qui est très connue, ici nous avons une histoire qui est racontée avec les verbes au passé. Ça c'est la parabole du semeur, les verbes sont au passé. Mais la petite parabole que nous avons aujourd'hui est une comparaison au présent et il n'y a pas d'interprétation explicite. Ici, c'est l'homme qui sème. Et avant, le semeur était identifié à Dieu ou à Jésus-Christ. Ici, c'est à l'homme de prendre le relais. On lit au verset 26.
Un homme jette de la semence sur la terre.
Mais la semence pousse, se fortifie sans son intervention.
Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit. D'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi.
Et à l'heure de la moisson, c'est de nouveau à l'homme de faire la récolte.
Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.
Contrairement à ce qui se passe dans la parabole du semeur, la semence ne semble pas rencontrer de difficultés de terrain. La productivité de la terre et le non-savoir de l'homme constituent ensemble le pivot de la parabole. Elle vise à faire comprendre qu'il ne faut pas chercher à faire avancer le temps de la moisson. Il convient plutôt de vivre pleinement le temps présent, en faisant confiance à la productivité de la terre.
Jésus parle du royaume de Dieu. Je comprends qu'il faut beaucoup de patience, il ne convient pas de se jeter dans l'activisme avec beaucoup de projets et d'actions. Il nous faut apprendre la sagesse de la méditation, de la prière et surtout de la confiance.
Dans cette parabole, un homme jette la semence en terre et puis reprend sa vie ordinaire. Ce qui arrive aux graines n'est pas de son ressort. On peut penser évidemment qu'il a bien préparé la terre, bêché, retourné, enlevé les mauvaises herbes. Si nous sommes dans une petite paroisse, on va parler de bêcher et d'enlever les mauvaises herbes.
Si on était dans une grande paroisse, on parlerait de labourer, hercer.
Peut-être. En tout cas, l'homme a fait tout ce qui est dans son pouvoir. Ensuite, il lâche prise et fait confiance. Car le semeur ne peut pas faire pousser la graine. Ça, c'est du ressort de Dieu. Cela échappe à l'homme. Et on est parfois tenté de mettre des pesticides et des engrais. Et ce n'est pas ce que nous faisons de mieux. Le texte dit clairement qu'on ne doit plus se préoccuper de la croissance. Il faut résister à la tentation de tout contrôler et de vouloir tout, tout de suite. Et on peut dire que notre société nous pousse à penser qu'on peut contrôler par la science et par la médecine. Par là, on peut tout contrôler. Mais en avançant en âge, on prend conscience que ce n'est pas possible et que cela peut même avoir des conséquences tragiques. Le défi pour nous, et pour moi je peux dire que c'est un défi très actuel et brûlant, est de comprendre ce qui relève de notre vocation et pour le reste, ne pas nous substituer aux autres ou à Dieu. La parole de Dieu est toujours une semence fertile. Et là, me trotte dans la tête presque tous les jours, le texte d'Ésaïe, repris dans la lettre de Pierre. Toute chair est comme l'herbe, et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur fane. Mais la parole de Dieu demeure pour toujours.
Cet extrait, on le retrouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, au verset 6, et dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, où les versets 24 et 25.
Merci Marie-Christine. Oui, la parole de Dieu dure toujours, mais ses voies sont mystérieuses. Semer, c'est annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est être témoin du Christ. Mais quant à grandir en Christ, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons nous laisser mener par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Thank you.
quelques mots peut-être de la deuxième petite parabole que nous trouvons à la suite dans cet évangile de Marc que nous avons lu tout à l'heure, donc au chapitre 4 et au verset 30 à 32. Le royaume de Dieu est comparé à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, mais qui devient un grand arbre dont les branches abritent les oiseaux du ciel. C'est une très belle image, j'aime beaucoup cette image.
Oui. Et aussi le petit qui devient grand est un thème qui revient souvent dans la Bible. Car la logique de Dieu, la logique du royaume, n'est pas celle des hommes. De nos jours, on dirait que Dieu n'utilise pas le même logiciel que les hommes. La préférence pour les petits se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Jacob, par exemple, est le cadet. Joseph est un des plus jeunes parmi les fils de Jacob. Moïse est plus petit qu'Aaron. Et David est le dernier des fils de Jessé. Et Jésus a continué avec ce principe quand il a dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » C'est en étant serviteur que Jésus est sauveur. Ce n'est pas par la force, mais par la fragilité. Et Jésus est bien l'illustration de cette parabole. Parti d'une famille très modeste en Galilée, accusé injustement et crucifié. Pourtant, aucun homme n'a autant affecté le monde entier. Et on parle de lui 2000 ans après sa mort.
Oui, quelle plante ! Et les oiseaux de toutes les couleurs sont venus y faire leur nid.
Nous pouvons appliquer ce principe à notre vie intérieure aussi. Vivre notre foi dans les succès et avec nos qualités n'est pas très difficile.
Quoique...
En revanche, inscrire notre foi dans nos faiblesses, nos blessures et nos fragilités est peut-être plus difficile, mais aussi plus riche. Dieu est présent dans les défaites et les échecs. Dire Jésus-Christ, même quand tout va mal, c'est dire un Dieu qui ne nous abandonne pas. Vivre la parabole de la graine de moutarde, c'est vivre de petits bouts du royaume. Et ne pas craindre si nos paroles et nos actes semblent fragiles et dérisoires face aux défis de notre monde. Mais vivre la parabole de la graine qui pousse toute seule, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. C'est accepter que nos propres forces sont réellement insignifiantes et ne sont pas celles qui sont à l'œuvre.
À propos des semailles de la parole, Luther a dit « La parole doit agir et non pas nous, pauvres pécheurs. Je veux la prêcher, je veux la dire, je veux l'écrire. » Mais seule la parole doit œuvrer, et elle le fait quand je dors et quand je bois de la bière avec mes amis.
Oui, c'était bien Luther. Mais Luther mettait son espérance en Dieu.
Et en conclusion, pour nous aujourd'hui, que pouvons-nous en dire?
Alors, notre espérance n'est pas dans notre expertise technique ou économique, ni même théologique. Notre espérance n'est pas dans notre réflexion philosophique. Notre espérance n'est pas dans notre science ou notre pouvoir. Non, notre espérance est en Dieu seul. Et la récolte abondante, partie de toute petite graine, et signe ou métaphore, de la compassion infinie de Dieu pour toute l'humanité. Amen.
Et pour terminer, je vous invite à la prière. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Délivre-nous de l'obsession de tout contrôler, de l'obsession du résultat, de prouver que nous sommes des gens bien, capables, estimables. En Jésus-Christ, nous n'avons rien à prouver. Nous sommes libérés de toute obligation de résultat. Nous n'avons rien à démontrer. Seigneur, nous remettons nos vies et nos engagements entre tes mains et nous rendons grâce pour ta compassion infinie pour tous tes enfants dans leur fragilité et leur faiblesse. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple Varus Saint-Thomas à Chartres. Merci Judith. Au revoir et à bientôt.
Merci Marie-Christine. Au revoir.
Substantia.